Et on va ouvrir ce magazine des sports. Lionel Sabot, bonjour.
Bonjour Jean-François Bonnard.
Avec de la natation, parce que les championnats d'Europe se sont achevés ce matin pour nous à Saint-Denis, près de Paris. Léon Marchand, en individuel et avec ses coéquipiers du relais, a remporté deux nouvelles médailles.
Oui, après sa victoire sur le 200 mètres papillon, Léon Marchand a survolé la finale du 400 mètres nage libre pour décrocher une deuxième médaille d'or dans ces championnats. Mais jamais rassasié, Marchand et ses coéquipiers du relais 4x100 mètres 4 nages ont ensuite pris la troisième place de ce relais derrière les Russes et les Italiens. Léon Marchand qui quitte la compétition avec deux titres en individuel et deux médailles avec les relais. Il a répondu présent malgré une préparation compliquée par une blessure.
J'avais pas mal de pression, pas mal de doutes. Je savais pas trop comment m'y prendre non plus. Et je fais une super course du début à la fin. Je crois que je pars assez vite. Ça craque un peu sur le troisième 100 mètres, mais je suis content de moi. Je pense que je peux partir un peu plus relâché la prochaine fois et faire un peu mieux au niveau du temps. Et après, il faut surtout que je me soigne, que je soigne mon adducteur et que je sois en forme pour les prochaines compètes.
Et le Calédonien Maxime Grousset termine, lui, ses championnats d'Europe avec une dernière médaille de bronze, donc avec le relais. Maxime Grousset, et qui, lors de cette ultime course, aura tout donné.
Tout donné. Je sentis qu'il fallait rattraper. J'ai peut-être donné un peu l'effort un poil trop tôt. À la fin, je craque complètement, mais on va chercher cette troisième place. Ça fait plaisir.
Et Maxime Grousset qui quitte Paris avec quatre médailles. Une d'or avec le relais 4x100 mètres 4 nages mixte. Deux d'argent sur 50 et 100 papillons. Et une de bronze sur le 4x100 mètres 4 nages. Messieurs, l'équipe de France qui termine ses championnats d'Europe avec un total de 11 médailles. Des championnats d'Europe qui auront aussi été l'occasion de rendre hommage à Florent Manaudou qui a officiellement pris sa retraite après avoir fait son retour pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Alors, c'est en ce moment la période des championnats d'Europe. On vient de parler ceux de natation, mais il y avait aussi ceux d'athlétisme qui se sont déroulés à Birmingham en Angleterre.
Et l'équipe de France qui a conclu cette semaine de compétition avec une dernière médaille de bronze, médaille par équipe sur le marathon. Si l'épreuve a été remportée en individuel par l'Allemand Amanal Petros, la sixième place de Valentin Gondouin a permis aux Bleus de terminer troisième par équipe. L'équipe de France qui quitte Birmingham avec un total de 11 médailles, 3 d'argent et 8 de bronze.
Et puis du football avec le trophée des champions, il se jouait ce matin et le PSG affronter Lens. Pas de nouveau titre pour les joueurs parisiens.
Seulement 4 jours après leur victoire sur Aston Villa en Super Coupe d'Europe, les Parisiens champions de France en titre retrouvaient donc les Lensois vainqueurs de la Coupe de France. Le PSG restait sur 4 succès consécutifs dans cette compétition, dans ce trophée qui marque traditionnellement le coup d'envoi de la saison. Eh bien ce matin, il n'y a pas eu de 5e victoire pour les hommes de Luis Enrique. Lens s'est finalement imposé sur la plus petite des marques. Score final 1-0. But signé Florian Thauvin, le nouveau capitaine du RC Lens à la demi-heure de jeu. Un petit but que les Lensois auront su préserver jusqu'à la fin de la rencontre alors qu'ils ont été réduits à 10 pendant près d'une heure de jeu. Le Paris Saint-Germain qui lui aussi a terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Nuno Mendes à 3 minutes de la fin du match. Paris et Lens qui retrouveront les pelouses du championnat de France dès la fin de semaine pour la première journée du championnat de France de Ligue 1. Lens recevra Auxerre et le Paris Saint-Germain accueillera Strasbourg.
Et puis en tennis de table, Félix Lebrun a remporté son premier grand smash. C'est l'équivalent d'un grand chelem en s'imposant dans le tournoi de Malmö en Suède. Le tricolore a battu en finale le japonais Tomokazu Harimoto, qui est numéro 4 mondial. On va parler dans un instant de l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie. Elle est très riche. Nous parlerons notamment football, karaté avec des invités. Nous reviendrons sur les principaux résultats du week-end.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Des idées, de l'audace, des projets. Chaque semaine dans l'Esprit Pionnier, découvrez ceux qui font bouger la Nouvelle-Calédonie. Des portraits de celles et ceux qui investissent et s'investissent pour le territoire. C'est tous les jeudis à 11h et 16h10.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Europe 1 sur RAB, c'est les rendez-vous d'information en direct de Paris. Le regard international de Vincent Herouette, le grand rendez-vous, la revue de presse internationale, l'interview de Laurence Ferrari. Europe 1 sur RAB, pour être les premiers informés.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province Sud.
Et ouais !
Rigueur, dépassement de soi, engagement, RRB vous fait revivre un exploit calédonien. Tous les lundis, à 11h et 16h10, un sportif ou un grand témoin raconte un événement qui a marqué l'histoire du sport calédonien.
L'Infomag continue avec le village automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au village automobile au BK4 à Nouméa.
Il est midi, on retrouve tout de suite Jean-François Bonin pour la suite de votre magazine des sports.
Oui, la deuxième partie du magazine des sports consacrée à l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de choses, Michael Juneski, cette semaine. On parlera karaté avec nos invités, mais aussi football avec le président de la Fédération Calédonienne, Steve Laigle.
Exactement, invité d'exception aujourd'hui, puisque la Fédération Calédonienne de football a souhaité s'exprimer sur le dossier épineux de Gianni Infantino. Steve Laigle, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, il y a eu cette prise de position faite par communiqué durant le week-end. Cette polémique qui secoue la planète du ballon rond depuis déjà plusieurs semaines après la Coupe du Monde, évidemment. Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui avait choisi de présenter puis de retirer son projet d'appeler des investisseurs privés, en gros, pour la Coupe du Monde de football. Steve Laigle, vous avez décidé de prendre position dans ce dossier, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, puisque nous soutenons la candidature et le parcours et le travail qu'a fait Infantino depuis sa première élection, depuis ses dernières décennies, et non pas l'erreur qu'il a faite là de communication, cette faute politique qui est pour nous la présentation de ce projet sans passer par le conseil de la FIFA. Donc on a fait une visioconférence avec lui en direct depuis l'OFC, depuis le comité exécutif de l'OFC. Il s'est excusé, il a dit qu'il ne recommencerait pas, et de toute manière, aujourd'hui, on n'a plus à en parler, puisqu'il l'a retiré quand il a vu que ça allait diviser le football. Donc, pour l'unité du football, il l'a retiré, donc on n'en parle plus. Et puis aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le football et la compétition.
Alors voilà, il y a eu ce projet qui a mis le feu aux poudres. On a suivi tout ça de loin, évidemment. Mais donc, ça a créé la polémique, cette déclaration. Et ensuite, un projet dont Gianni Infantino a immédiatement annoncé le retrait. Mais sa place est toujours en péril, plus que jamais. Le patron du ballon rond mondial aujourd'hui, selon vous, c'est ça qui est en jeu. Finalement, c'est plus ce projet en question. C'est vraiment l'avenir de ces instances dirigeantes de la FIFA.
Oui, tout à fait, puisqu'en mars 2027, le président de la FIFA doit être renouvelé, il y a les nouvelles élections. Donc je pense qu'étant une année élective, c'est tout à fait normal ce genre d'événements qui arrivent, puisque aujourd'hui, il est remis en cause par l'UEFA, et qui, l'UEFA, depuis plusieurs mandats maintenant, espère pouvoir représenter un candidat en face de M. Infantino. Donc c'est le jeu politique, on va dire, normal de la politique du sport.
Il y a un certain nombre de critiques qui sont faites à l'encontre du président de la FIFA, taxé notamment d'autoritarisme, d'être faire un peu cavalier seul et de faire un peu ce qu'il veut quand même. C'est une vérité, vous le sentez
Nous, non. C'est pour ça qu'on a décidé à l'OFC, à la Confédération, dans la majorité, on est 10 sur 11 à soutenir sa candidature. Parce que justement, il a communiqué ce projet à tous les présidents de fédération et il a bien dit dans ce communiqué, dans ce mail, que si la majorité n'était pas d'accord, il le retirait. Donc pour moi, ce n'est pas être autoritaire, c'est plutôt faire preuve de démocratie. Et nous, c'est ce qu'on défend aujourd'hui.
Alors là, aujourd'hui, notamment cette prise de position, la Fédération Calédonienne de football par voie de communiqué qui donc s'est exprimée, rappelez un petit peu la teneur de votre position aujourd'hui dans ce dossier épineux, l'affaire Gianni Infantino.
Oui, pourquoi notre position ? Parce qu'aujourd'hui, elle est importante. C'est ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est que quand Infantino a pris la FIFA pour la première fois, la première chose qu'il a faite, c'est une fédération, une voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voix de la Fédération Calédonienne de Football compte autant que celle de la Fédération Française, Allemande, Brésilienne, Argentine, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, notre voix, elle est importante. Donc on doit la faire entendre. Donc si on est d'accord avec toute l'œuvre qu'il a mis en place depuis ces dernières décennies et les projets qu'il a à venir, eh bien on se doit de soutenir. Donc on doit faire entendre notre position, nous, la Fédération Calédonienne de Football.
Selon vous, c'est important pour l'équité avant tout du football ?
C'est important pour l'équité parce qu'aujourd'hui, son projet, à lui, ça a toujours été le football doit se jouer partout et pour tous. Donc aujourd'hui, le football doit aussi se jouer en Nouvelle-Calédonie, doit aussi se développer. Donc c'est pareil, les subventions FIFA, eh bien, il les a divisées à part égale entre toutes les fédérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on touche autant de subventions qu'une grosse fédération. Et ça, pour moi, c'est ça l'équité, c'est ça le respect de tout le monde, en fait.
Et alors, en guise de conclusion, justement, ce qui se passe actuellement à la tête de la FIFA, à long terme, quelles pourraient être les incidences pour le football en Calédonie ?
Ben, si on change de président aujourd'hui à la tête de la FIFA et que lui, il a plutôt une vision d'aider plus les grosses fédérations à se développer, ben, nous, forcément, on aura moins de subventions, on pourra moins développer et puis on pourra moins avancer dans le développement, la préparation de nos sélections. Et il y a aussi quelque chose qu'il a fait de bien, c'est d'ouvrir les compétitions à plus d'équité aussi dans les compétitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a 2 places chez les U20 et on a 3 places chez les U17 en Coupe du Monde. Et ça, c'est important pour le rayonnement et pour la jeunesse. Ça permet à nos jeunes de pouvoir participer à des Coupes du Monde et d'évoluer, de progresser plus vite.
Eh bien, Steve Laigle, président de la Fédération Calédonienne de Football, merci d'avoir accepté de venir dans nos studios ce midi pour vous exprimer sur ce sujet. Merci encore.
Merci pour l'invitation.
Voilà donc pour ce dossier football. On va passer aussi au karaté, Michael, parce qu'il y a une riche actualité du karaté. On en parle aussi avec les 3 invités qui sont également sur ce plateau.
Oui, absolument. Une actualité riche. Nous sommes tout d'abord avec Grégory Panet. Donc, Grégory Panet à mes côtés. Toutes mes excuses, responsable au niveau du comité régional de Nouvelle-Calédonie de karaté. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, directeur technique du comité régional. Également dans nos studios, Mathieu Stoz-Emen, récemment titré champion de France chez les moins de 63 kilos jeunes. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Angélique Mondolini, bonjour également à vous, en partance prochainement pour les mondiaux, tout comme Mathieu d'ailleurs, de la discipline. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation ce midi. On le disait, une actualité riche. Grégory Panet, tout d'abord, un retour dans le rétroviseur, un regard dans le rétroviseur, puisque ça a été une très belle année déjà pour les athlètes calédoniens qui évoluent au plus haut niveau. Voilà, un petit coup d'œil de tout ce qui s'est passé. On a notamment des champions qui sont dans nos studios, mais un petit récap au niveau régional, national et international, une année faste pour le karaté calédonien.
Oui, ben déjà au niveau du pôle, en fait, on a 5 jeunes qui sont en pôle France, donc dont Kurt Evlakov qui a fait vice-champion de France espoir et qui là récemment a fait champion de France universitaire et qui s'est qualifié pour les championnats du monde et Europe universitaire. Et puis Mathieu qui l'année dernière a performé au niveau de la Coupe de France cadet et en surclassement au niveau junior et qui a été sélectionné pour les championnats d'Europe en début d'année et qui là vient de faire champion de France au niveau des cadets et à 2 semaines près il était sélectionné pour les championnats du monde. Voilà, donc maintenant il passe junior et donc c'est une nouvelle catégorie et c'est pour ça qu'on part sur les championnats du monde là au niveau en fait c'est championnat du monde Shitoryu, du style Shitoryu. Et pour Mathieu, notamment, c'est une compétition de préparation pour les championnats de France junior.
Eh ben on va déjà se tourner vers le principal intéressé, Mathieu Stoz-Emen, tout jeune, une des premières interviews radio, ça va, vous n'avez pas trop la pression?
Non, ça va.
C'est moins pire que sur les tatamis, racontez-nous, revenez sur ce titre notamment de champion de France chez les moins de 63 kilos en combat. Comment ça s'est passé, comment vous êtes dit à l'issue de cette compétition jusqu'à aller décrocher l'or?
Déjà, dès le début, beaucoup de pression par rapport à la sélection que j'avais eue précédemment. Parce que c'était comme un petit peu quelque chose que je devais vérifier. Donc c'était ma place, vu que cette catégorie-là, c'était celle que j'avais représentée. J'étais le numéro 1 de cette catégorie, donc j'avais de la pression. Et malgré ça, j'ai réussi après chaque combat à devenir plus fort. Donc j'ai monté en puissance tout le long de la compétition. Jusqu'à ma finale. Et pareil, la finale, beaucoup de pression, mais Mais finalement, j'ai réussi à décrocher l'or.
C'est quoi qu'on se dit dans la tête quand on aborde une compétition justement dans la position justement de celui qui va être chassé par tous les autres? C'est plus dur que ceux qui commencent la compétition dans l'adversité?
Bah justement, faudrait essayer de bien le prendre. Je sais que c'est pas facile à le faire, mais dans le sens où faut se dire que ben t'es numéro un, c'est quelque chose que tu peux vivre très rarement. Donc, c'est un petit peu l'image de quelqu'un qui doit garder son territoire. Et franchement, c'est une image que j'aime beaucoup et que j'ai réussi à garder du coup pour cette compétition-là.
Et alors, maintenant, c'est une autre posture, on va dire, qui se prépare, puisque c'est bientôt des championnats du monde, c'est ça qui se profile à l'horizon pour
vous ?
Oui,
c'est ça.
Alors là, comment vous entraînez ? Comment ça se prépare ?
On commence une bonne préparation. Donc c'est une préparation qui va pareil monter en puissance, monter en intensité, monter en sévérité aussi. On travaillera sur des points spécifiques qu'il faudrait mettre justement en avant sur cette compétition-là et voilà.
Et alors également Angélique Mondolini, vous aussi c'est une grande échéance qui s'approche, faites-nous un petit peu le pourtour de voilà, cette date, j'imagine que vous avez coché depuis déjà de longs mois sur votre calendrier.
Oui absolument, après c'est un peu des nouveaux objectifs pour moi, donc avec des nouveaux protocoles qui sont mis en place là dernièrement grâce à la venue d'un expert national. Donc ça sera l'occasion de mettre en place ce nouveau travail et voir le résultat que ça peut apporter.
Ouais, qu'est-ce qu'on se dit quand on aborde de telles échéances? Là c'est à tous les deux, hein, le micro est ouvert. Voilà, on vient de Calédonie, il y a cet objectif également de vous défendre ce qui se passe ici localement pour la scène du karaté quand on va dans de telles compétitions?
Oui, c'est l'occasion de se montrer, en fait, c'est l'occasion de se montrer. Là, il y aura énormément d'athlètes qui seront inscrits, donc c'est un format de compétition qui est un peu inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc il y aura énormément d'athlètes et donc très hétérogène aussi au niveau du niveau. Et donc ça sera l'occasion de se démarquer, de voir jusqu'où on peut aller et pouvoir se démarquer.
Alors Mathieu, même question, vous aussi, ça fait quelque chose quand on vient de Calédonie?
Oui, forcément, on vient d'un petit pays, donc c'est pas le pays le plus connu. Donc forcément, c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir représenter ces couleurs-là. Et si on arrive à performer, c'est d'autant plus beau.
Alors Grégory Panier, je me tourne vers vous. Déjà une réaction quand vous entendez ce qu'ils disent, hein, la volonté de toujours mettre la Calédonie sur la carte du karaté mondial, c'est important. On a eu des grands palmarès par le passé, on a envie que ça dure.
Oui, en fait, ce genre de compétition, pour nous, en fait, c'est un moyen de s'évaluer aussi, d'évaluer notre niveau. Pour Mathieu, en fait, là, on part sans objectif de médaille. En fait, on va pour travailler certains points, en fait, qu'on a à régler pour les championnats de France junior. Et puis, il y a d'autres athlètes seniors aussi qui partent. Donc, c'est pour relancer une dynamique en vue des Océania qui sont l'année prochaine. En fait, on prépare déjà les Océania, donc c'est une compétition de référence pour qu'on puisse avoir des points à travailler.
Alors, il y a encore eu d'autres résultats probants dans les mois qui précédaient, notamment l'Open de Nouvelle-Zélande avec des jeunes, là encore cette fois. On peut revenir sur cette compétition, un total 33 médailles pour les Calédoniens, c'est pas rien.
Ouais, c'est en fait, depuis que le pôle existe, en fait, on a ouvert ces compétitions, l'Open de Nouvelle-Zélande, d'Australie, au club, en fait, en participation. Ça permet au club de pouvoir sortir leurs jeunes, de prendre de l'expérience et nous, en fait, c'est tout bénef dans la détection et de faire monter le niveau calédonien. Là, il y a 5 clubs qui sont partis à cette compétition-là. Et puis, les clubs ont fait des beaux résultats avec des médailles d'or. Les jeunes sont allés sans complexe et on voit que le niveau calédonien se porte bien.
Alors, il y a cette partie haut niveau, bien sûr, que l'on vient d'évoquer, mais il n'y a pas que ça. Le comité régional de karaté continue de s'investir dans de nombreux projets, notamment, Angélique Mondolini, vous êtes porteuse, vous, d'un projet très spécifique qui s'adresse surtout aux féminines, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc, en fait, en 2025, la Fédération mondiale de karaté a proposé aux pays du Pacifique d'être formés, de former des instructrices, en tout cas, en salle défense. Donc c'est un programme qui s'appelle Guardian Girls, donc Guardian Girls Karaté, qui existe dans sur l'ensemble des continents. Et donc j'ai été formée à Adélaïde en même temps que des instructrices australiennes, fidjiennes, néo-zélandaises. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de faire rayonner en fait ce programme déjà au travers du territoire, en formant d'autres instructrices, et puis en proposant des sessions d'initiation. L'objectif principal en fait de ce programme, c'est d'autonomiser les femmes et les filles et de lutter contre la violence sexiste principalement. Donc en fait, le karaté est un vecteur de valeurs et on utilise les techniques d'autodéfense qui viennent du karaté pour les transmettre à des femmes et des filles qui potentiellement en auraient besoin.
Comment ça s'est passé lorsque vous avez vu cette initiative qui se présentait à vous? C'était une évidence de s'impliquer dans un tel programme, associer sa passion, son sport avec une cause qui touche particulièrement les Calédoniennes?
Oui, c'est arrivé par opportunité en fait. Donc avec le palmarès que j'ai et puis le fait d'être ceinture noire, d'avoir une expérience dans l'enseignement, etc. Donc en fait, j'avais plus ou moins le profil pour pouvoir participer à cette formation. Et en fait, ça a pu développer chez moi effectivement l'idée que la mission était importante, puisque en ouvrant un petit peu son champ de vision, on se rend compte que les chiffres sont assez parlants, que ce soit au niveau mondial, mais en Calédonie. Et donc, c'est important effectivement d'aller toucher, grâce à son bagage en fait, d'aller toucher des femmes et des filles qui pour aujourd'hui n'ont pas les moyens en fait de pouvoir se défendre correctement.
Pour toutes celles qui sont intéressées, du coup, pour vous rencontrer, pour en savoir plus sur ce programme, c'est quoi les bonnes infos à divulguer?
Alors, pour l'instant, moi, j'ambitionne, en fait, de pouvoir sensibiliser au niveau des collèges et des lycées. Donc ça, c'est un travail qui va être... c'est un projet qu'on va monter en collaboration avec, forcément, le comité et puis d'autres administrations et institutions. Donc j'espère que ça va se faire, parce que pour l'instant, en étant seule instructrice, c'est compliqué de mener beaucoup d'actions. Donc mes deux principaux objectifs, ça va être de former plus d'instructrices, comme ça on mène plus d'actions tout ensemble, et puis de pouvoir rentrer dans les collèges et lycées.
Eh bien, on espère que cette opération pourra porter ses fruits. En guise de conclusion, hein, Grégory Panet, malheureusement, le temps va venir à nous manquer. Mais il n'y a pas que celle-là d'action, il y en a beaucoup d'autres. Il y avait encore le karatébus qui se déroulait la semaine dernière, ça pour tous les jeunes. La volonté du comité aussi, c'est de continuer d'aider les athlètes dans le haut niveau, tout en essayant de faire en sorte de développer la pratique, de le faire connaître au maximum de monde.
Oui, ben en fait, on se sert du Pôle Espoir pour, en tant que vitrine, pour pouvoir travailler sur le développement du karaté. Et dans le karaté bus, où l'objectif, c'est de déplacer les jeunes du pôle, du centre territorial d'entraînement aussi, et de mixer avec les jeunes de club pour pouvoir leur donner envie de faire du haut niveau. Et puis notre objectif reste les Océanias l'année prochaine, parce que ça va nous permettre, avec tout ce qui s'est passé, ça va nous permettre de relancer la dynamique au niveau du karaté calédonien.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation ce midi. Grégory Panet, Angélique Mondolini, Mathieu Tauze-Hemen, merci encore.
Merci à vous.
Merci à tous les trois. Et pour terminer ce magazine des sports, Mickaël, on va revenir sur les principaux résultats du week-end. On va commencer avec le badminton et les championnats en double qui se sont disputés sur deux jours à la salle Omnisport de Païta.
Oui, près d'une centaine de joueuses et de joueurs présents pour s'affronter dans les différents tableaux proposés. Chez les seniors messieurs, la victoire de Morgan Patio et Joseph Guyenne de Magenta en finale contre la paire Lucas Juillot et Karl Engela de Dimbéa, au terme d'une belle bataille, les vainqueurs du jour.
Alors moi c'est Joseph Guyenne, j'ai 21 ans, je suis de l'ASM Magenta.
Et moi Paitio Morgan de l'AS Magenta et 37.
c'est incroyable, déjà la demi c'était super dur parce qu'on se faisait mener beaucoup, mais j'ai vraiment essayé de me ressaisir et tout. Et grâce à mon partenaire aussi Morgan, il m'a pas lâché dans ça. On s'est relevé chacun et puis je suis content de gagner la finale, on a réussi à bien jouer.
Non, mais comme il a dit, on a été solide dans la tête et c'est ça la différence, c'est que moi je peux lui apporter le côté mental pour essayer de finir nos matchs, les gagner quand c'est dur. Des fois on peut bien jouer, puis des fois on peut être en dessous de leur niveau, mais voilà, on se bat et je suis content aussi et j'espère qu'on ira loin justement au jeu. Et le but, voilà, on a un an encore et on peut que progresser encore.
Ah. Chez les féminines, le duo de Dimbia, Olympe d'Archeville, Julie Wangso-Gerno l'ont emporté face à la paire Marianne Carayon, Cécilia Aubry de Magenta. Enfin, en mixte, Ryan Nagle et Cécilia Aubry de la SM l'ont emporté contre le jeune Maï Sargito du CJI et Olympe d'Archeville de Dimbia.
Ces internationaux.
L'épongiste, on passe au tennis de table. Donc, l'épongiste sont réunis à la salle Omnisport de Lanzvata depuis le début du week-end pour les internationaux de Nouvelle-Calédonie, Michael.
Oui, une compétition open et junior qui se poursuit jusqu'au 21 août pour engranger une bonne expérience en vue des échéances qui approchent. D'épongistes venus du Vanuatu participent également aux différents tournois. Les meilleurs Calédoniens visent déjà les Jeux de Tahiti, mais aussi les Océania de la discipline. Patrick Gilman, le président de la Ligue calédonienne de tennis de table.
Ces internationaux de Nouvelle-Calédonie ont deux objectifs. Le premier, à préparer nos jeunes pour les championnats d'Océanie, de préparer notre équipe pour les Jeux du Pacifique, et ensuite permettre à tous nos joueurs, jeunes en particulier, de se frotter au petit haut niveau qui est le nôtre. Donc également la présence d'Ange et Solène, qui actuellement joue en Nouvelle-Zélande et qui a remporté le titre en simple dame face à Orné la Bouteille. Donc c'est également de bonne augure pour les Jeux.
Chez les messieurs, c'est Jérémy Day et Laurent Sanz qui ont remporté le double. En tout, près de 100 joueurs sont réunis, 35 tableaux au total dans toutes les catégories. Ça se poursuit à la salle Omnisport de Lanzvata.
On reste dans le chapitre sport de raquette avec du beach tennis. C'était un rendez-vous qui se s'est déroulé tout le week-end sur Lanzvata.
Oui, tournoi dans une ambiance conviviale avant tout, que ce soit pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, autant que pour les débutants qui découvraient ce sport. L'important était d'offrir une belle vitrine sur cette discipline devant le public nouméen.
Bah c'est très rigolo. Pour ma part, j'ai joué une fois, donc je sais pas jouer. Mais c'est très sympa, en fait. Les gens sont bienveillants et puis on tape des balles.
C'est pareil, c'est ma première fois. Donc c'est vraiment sympa, il y a des bons conseils, c'est une bonne ambiance.
C'est une super ambiance. Voilà, au moins on est tous ensemble à la plage. On n'a pas trop le temps avec nous, mais ça passe.
Ça joue quand même.
Ça joue quand même. On donne tout.
Bah c'est bien, ça change un petit peu. On joue au padel. Et donc après ça change de discipline et ça nous permet aussi de se balader un petit peu parce qu'il y a des tournois sur Bourail et sur Point-d'Imier.
Nous à Lifou on joue beaucoup beach tennis vu qu'on n'a pas de terrain de tennis, pas de terrain de padel, donc c'est le sport raquette privilégié à Lifou et on a quand même l'un des très beaux spots, des plus beaux spots je pense au niveau en termes de plage. C'est très sympa comme pratique, c'est une autre manière de faire un sport de raquette.
Là c'est la première fois qu'on se fait ce tournoi ici à Lanzvata. Et puis de nombreuses équipes, que ce soit double homme, double femme et double mix aussi. Donc c'est un vrai plaisir de partager ça avec tout le monde.
C'est Nicolas Favret, je suis le trésorier du Tennis Club du Restaving.
Voilà, les organisateurs qui avaient mis en place plusieurs terrains sur les trois tournois proposés, double messieurs, double dames et double mix, mais aussi des espaces pour les curieux qui voulaient découvrir le beach tennis.
Ouais, il y a des surprises dans ce magazine des sports aujourd'hui. On va passer au futsal, Mickaël. La sélection calédonienne qui était réunie pendant deux jours, c'était à la Reine du Sud.
Oui, des rencontres pour une revue d'effectifs. Par exemple, lors d'un match contre les moins de 23 ans, remporté 9-3. Score anecdotique. L'important était de voir les forces en présence selon Christophe Benmaza, le sélectionneur calédonien.
Bon, on est satisfait, on est venu pour travailler. Voilà, c'était un match où il y a eu beaucoup de bonnes intentions, beaucoup d'erreurs aussi parce qu'il y avait un plan de jeu qui était destiné à progresser et pas forcément à être efficace. Donc voilà, pour les spectateurs, ça a peut-être été peu lisible parfois, mais en tout cas, on est satisfait, nous, d'avoir vu des excellentes attitudes des deux côtés, des excellentes attentions. Et puis de la progression. Donc il y a des qualités incroyables des deux côtés. Et les U23, ils ont fait une première mi-temps de dingue. Non mais c'était très bien, on est très contents de cette première. Ça montre déjà les bonnes énergies, le public qui était là aussi. Ouais, c'est vraiment super intéressant pour la suite.
Justement, les jeunes aussi peuvent déjà afficher leurs ambitions. Rien n'est interdit hein, pour ceux qui veulent prétendre aller très vite plus loin.
Ah bah bien sûr qu'il n'y a rien d'interdit. On avait déjà intégré la 1, un joueur de 23 ans avec Léa. Et au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va sûrement en appeler d'autres aussi. Hein.
Et le lendemain, ce dimanche, l'équipe A de Nouvelle-Calédonie de futsal affrontait l'ATJD, toujours à l'Arène du Sud. La sélection s'est imposée sur le score de 14-1.
Et on termine, Mickaël, avec les principaux autres résultats du week-end.
Et dans le Nord, le raid de Ouaté se courait samedi matin. Rendez-vous organisé par Challenge Organisation sur le grand raid de 20 km. C'est Mathieu Chanteduc qui l'a emporté devant les frères Ricky et Tom Ancar. Chez les féminines, Julie Maréchal s'est imposée, suivie d'Amélie Akelian et de Lisa Ancar. Près de 200 participants étaient de la partie. En cycle sur piste, la fin vendredi des championnats territoriaux. Chez les moins de 15 ans, Nino Durand a réalisé le doublé sur la Tempo Race ainsi que sur la course au point. Chez les féminines, victoire d'Anouk Hirzel en moins de 17 ans, Gabin Hirzel s'impose sur la Tempo Race, tandis que Colin Laurent réalise le doublé, la course au point et la poursuite individuelle. Enfin, en moins de 19 ans, Chad Charret remporte la course au point. Kieran Moultrie s'impose quant à lui sur la Tempo Race, ainsi que sur la poursuite individuelle, avec un temps qui lui permet de faire les minima pour les championnats de France sur piste. Et puis du football pour finir, la 15e journée de Super League et des victoires ce week-end de Gaïcha sur l'Ossi 2-0, de le Magenta qui a battu Yengen 4-1, Nedeo l'a emporté sur Cougné 4-3. Enfin, Horizon Sport et le CA Saint-Louis se sont quittés sur un nul, 3-2. En match avancé, Tiga s'était imposé sur le Mont-d'Or 6-0. Match avancé, et pourquoi? Parce que Tiga, de son côté, poursuivait sa campagne en O-League et les champions de Calédonie ne verront pas les demi-finales. Ils ont subi une nouvelle défaite ce dimanche contre les Salomonais de Central Coast 2-0 après s'être incliné contre Auckland City 1-0 malgré la première victoire sur les Tahitiens de l'AS Vénus de Germain Aiwegene 1-0.
Il est 12h et bientôt 27 minutes, c'est la fin de ce magazine des sports. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous d'info, vous le savez, c'est à la fin d'Infomag à 13h avec le rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi. Infomag se poursuit en attendant, évidemment, avec Pierre.